pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, être né quelque part, être né quelque part. Pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Bienvenue dans Page après page, je suis en compagnie de Jean-Paul Copetti. C'est un officier de police à la retraite et c'est la première fois que nous le rencontrons. Pour notre plus grand plaisir, aujourd'hui, nous rencontrons l'auteur qu'il est devenu. C'est d'ailleurs un auteur ariégeois. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous présenter votre livre aujourd'hui, mais pour commencer cet entretien, vous avez choisi Maxime Le Forestier, né quelque part. Pourquoi ce choix ?
J'ai choisi cette chanson en particulier de Maxime Le Forestier. Alors tout d'abord parce que j'aime beaucoup Maxime Le Forestier, mais en plus cette chanson est une chanson qui prône des valeurs d'égalité et qui lutte contre le racisme. Et je trouve qu'en ces temps très troublés au niveau politique, c'est très bien de rappeler certaines valeurs fondamentales.
Mmh. L'ouvrage que nous allons feuilleter aujourd'hui, il s'appelle « Prince de Belleville », paru en automne 2021 aux éditions Champs-Élysées Deauville. Il est le deuxième d'une trilogie. Comment est-ce que vous avez imaginé une trilogie au lieu d'un roman et puis un autre ?
Alors en fait, j'ai publié, il y a un peu plus d'un an maintenant, un roman qui s'appelle « Ténèbres en loge bleue » où j'avais créé un personnage de policier de la brigade criminelle, franc-maçon, qui se retrouvait impliqué dans une affaire assez ténébreuse. Et j'avais l'idée de faire un autre roman policier. Et c'est mon éditeur qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne reprends pas ce personnage qui est intéressant pour... pour en faire finalement une suite et pourquoi pas une trilogie. Et c'est la raison pour laquelle celui qui est sorti dernièrement, Prince de Belleville, se retrouve avec le même personnage récurrent de chef d'un groupe de la brigade criminelle, franc-maçon.
Oui. Pourquoi la franc-maçonnerie et pas une secte ou pas autre chose ou peut-être, je ne sais pas...
Bon, tout d'abord, la franc-maçonnerie, ce n'est pas une secte. Et pourquoi j'ai choisi de faire ce personnage de policier franc-maçon ? En fait, je voulais donner une espèce de personnalité un peu plus atypique à ce héros. Et alors, plutôt que d'en faire, comme souvent c'est le cas dans les romans policiers, un divorcé alcoolique qui est mal dans sa peau, je me suis dit, bah tiens, je vais en faire un franc-maçon. C'est un petit côté en plus intrigant et ça permettra d'avoir un personnage peut-être plus intéressant et même plus attachant qu'un personnage classique.
Oui, en tout cas, c'est une très bonne idée. J'ai bien aimé Clément. Tout de suite, là, dès qu'on commence cette lecture, eh bien, on est dans le vif du sujet. Nous sommes les témoins du premier meurtre. Et puis alors, c'est un point fort parce que vous mettez le lecteur au pied du mur.
Oui, ça démarre sur les chapeaux de roue. On assiste à un meurtre et on va ensuite assister à une enquête de la brigade criminelle. Je précise que ce sont des faits totalement imaginaires, mais que les techniques utilisées par les personnages policiers de ce roman sont vraiment les techniques utilisées dans la réalité à la brigade criminelle, un service de police où j'ai travaillé pendant 32 ans. Et on suit quelque part une enquête, bon, imaginaire, mais avec des techniques qui sont les vraies techniques qui auraient eu lieu si cette affaire avait été une affaire réelle.
Mmh. Qui est Clément Chevalier ?
Clément Chevalier, c'est un chef de groupe de la brigade criminelle. On va dire que c'est un homme qui a 45 ans dans ces eaux-là et qui dirige une petite équipe qui, lorsqu'il est de permanence et qu'il se produit un fait grave, à savoir un meurtre, puisqu'il travaille à la brigade criminelle, eh bien, est chargé d'enquêter pour identifier, arrêter le ou les coupables, les traduire devant la justice.
Mmh. Vous lui avez donné un petit compagnon à Clément ? Un petit compagnon qu'il aime bien d'ailleurs, qui reste dans son bureau. Comme d'autres ont un chien, et bien lui, il a un tout petit compagnon. Et je trouvais ça très ingénu, parce que c'est rare.
Eh bien écoutez, je vais vous dire, ça c'est une anecdote réelle.
Ah.
À un moment donné, dans mon bureau, j'avais une petite plante, un petit géranium. Et le collègue avec qui je partageais ce bureau, un jour me dit, tiens, t'as vu, il y a une araignée dans ta plante. Je me dis, on ne va pas la tuer et on va lui donner un nom. Et je dis, on va l'appeler Boris, comme dans la chanson des Who, Boris the Spider. Et c'est une anecdote que j'ai rapportée dans ce roman. Mais là, c'est une anecdote réelle. J'ai vraiment eu une petite araignée, alors peut-être pas apprivoisée, mais en tout cas, une petite araignée dans mon bureau.
En tout cas, c'est vraiment sympathique, je trouve. Clément, est-ce qu'il est autoritaire ou pas avec son équipe ? Il me semble que quelque part, quand même, oui.
Je dirais qu'il est... Non, il n'est pas vraiment autoritaire. Il est directif parce qu'il sait dispatcher les rôles que chacun doit remplir sur une scène de crime. Mais je ne dirais pas qu'il est autoritaire. Je pense que les gens lui obéissent parce qu'ils ont confiance en lui, ils l'aiment bien. Et c'est quelqu'un de sympathique. Mais bon, je ne dirais pas d'autoritaire.
D'accord. Pourquoi avoir choisi aussi le monde de la rue ? Comment est-ce que vous est venue cette idée d'une enquête a priori qui ressemble à tout sauf à un crime organisé dans la rue, après tout, voilà quoi, je veux dire, c'est pas tout le monde, certes, mais on pourrait croire que, bon, ben voilà quoi, un SDF qui meurt, ben c'est parce qu'il a eu froid, c'est parce que...
Il faut bien différencier un SDF qui meurt de faim ou de froid, donc c'est accidentel, on va dire, même si c'est très malheureux, mais c'est accidentel.
Oui.
Et un SDF qui est assassiné. Et c'est vrai que dans ma carrière à la crime, j'ai travaillé sur plusieurs affaires de sans domicile fixe assassinés. Et on a travaillé sur ces affaires de la même manière, avec la même célérité, le même sérieux, que sur des affaires de meurtre de PDG ou de je ne sais quoi. En fait, et c'est tout à l'honneur de la brigade criminelle, chaque victime est traitée indifféremment de sa position sociale. Mm-hmm. On met autant de pugnacité à essayer de retrouver les auteurs de l'auteur d'un meurtre d'un SDF que d'un millionnaire. Alors pourquoi j'ai choisi dans ce roman de travailler sur une affaire imaginaire de meurtre de SDF? J'ai trouvé que c'était original, ça changeait un petit peu des règlements de compte entre malfaiteurs ou des affaires se passant comme dans les Colombo, dans la haute société.
Oui. Qu'est-ce qui a mis Clément en alerte, justement, parce que on s'attend à un meurtre, d'accord, c'est les gens de la rue, point. On ne dévoile rien, on ne dit rien, sauf ce petit détail dont on ne va pas dévoiler le secret ici, c'est pas notre but. Ce dessin.
Oui, comme on l'a dit, Clément Chevalier est un policier franc-maçon. Et sur le corps du premier cadavre, puisque sans dévoiler l'intrigue, il y en aura un autre, sur la poitrine du premier et du deuxième, on va retrouver un dessin qui est celui d'un compas et d'une équerre, c'est-à-dire d'un symbole de franc-maçonnique. Et donc Clément Chevalier va être très étonné de retrouver ce signe sur le cadavre et va même être inquiet en se demandant est-ce qu'un autre franc-maçon n'est pas devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, on le saura au fur et à mesure de la lecture du roman.
Oui, tout à fait. Je suppose aussi donc que votre métier vous a vraiment bien aidé pour l'écriture, ne serait-ce que pour tout le côté technique.
Oui, tout ce que je raconte dans ce livre, les techniques, la police scientifique, les prélèvements, les auditions, les gardes à vue, la présence de l'avocat lors des gardes à vue, tout est vraiment réel et ça pourrait être une affaire qui se soit vraiment passée.
Oui. Est-ce que c'est pour mieux accrocher le lecteur que vous avez choisi cet emplacement sordide, sans témoin, hormis ces signes dont nous avons parlé? Et puis plus rien, la nuit.
Oui, alors en fait, non, c'est un peu comme ça souvent que ça se passe dans la réalité. Il arrive souvent qu'une affaire soit découverte la nuit. Ça, une fois, je m'étais amusé à faire des statistiques et il y avait presque les deux tiers des meurtres commis en région parisienne qu'on découvrait la nuit. Et souvent aussi dans des endroits, comme vous dites, sordides, des terrains vagues, des ruelles, des maisons abandonnées.
Mmh. Se cacher, ça ne peut faire partie que des malfaiteurs. Il ne faut pas qu'ils se fassent remarquer. Et c'est ça, en fait, dans cette histoire qui est difficile pour les policiers de remonter les sources, de remonter les chemins pour arriver à savoir qui a fait quoi. Et donc, les policiers, ils ont du mal à trouver les indices. C'est voulu, ça, de la part de l'auteur que vous êtes?
Alors oui, il est évident que si je raconte une histoire, comme ça m'est arrivé, où tout se passe bien, où dès le départ on trouve une empreinte digitale, ou un témoin qui dit « j'ai vu une voiture avec tel numéro d'immatriculation », ça n'a aucun intérêt, parce que là l'enquête va être très rapide et il n'y a pas de suspense.
Oui.
Donc effectivement, dans cette affaire-là, comme dans d'autres affaires réelles, les policiers piétinent, ils ont des pistes qui s'avèrent être des fausses pistes, et puis ils vont avoir un coup de chance à un moment donné,
oui.
Car souvent la chance aussi... est un élément très appréciable. Il n'y a pas que les enquêtes, que la police scientifique, que l'ADN, que la téléphonie. Il faut souvent un petit coup de pouce du destin, comme ça va apparaître à un moment donné dans ce roman.
Tout à fait. Et est-ce qu'à un moment, vous avez dû arrêter l'écriture? Parce que peut-être vous vous disiez, mais non, si je fais comme ça, ça va être trop facile, il faut que je trouve une autre piste.
Ce qui s'est passé dans ce roman, comme dans quelques autres que j'ai écrits, c'est que j'inventais une intrigue, un peu tarabiscotée pour qu'il y ait un côté attractif. Et puis je me disais, dans la réalité, comment on ferait pour arriver à remonter jusqu'au coupable? Et là, parfois, ça a été un peu difficile parce que je me disais, dans la réalité, est-ce que là, on en arrivera à prendre tel chemin, à tel autre? Et c'est ça qui a été le plus difficile, pas vraiment à inventer l'intrigue, mais à imaginer comment, tout en restant réaliste, les policiers vont arriver à remonter jusqu'à l'auteur.
Mmh, d'accord. Le brigadier Romain Wakowski, qui est-il? Il me semble que vous l'avez créé un peu goguenard. Je me trompe ou pas?
Oui, alors j'ai créé ce personnage un petit peu macho, un petit peu sûr de lui, parfois même ridicule sans s'en rendre compte, mais finalement assez attachant. Et je trouve qu'il fait un peu le penchant avec sa collègue qu'il va draguer plus ou moins, qu'il va le remettre en place. Bon, ça donne de la vie un petit peu à l'équipe, parce qu'il faut savoir que bon, la brigade criminelle, on travaille par équipe. Hein, ça n'a rien à voir avec Maigret qui travaille tout seul. Ce sont des équipes de 5, 6, voire 7 policiers. Et au sein de ces équipes se crée une espèce de convivialité, voire de fraternité, et même de vie de famille. Et donc, c'est intéressant de créer des personnages qui vont un petit peu se chamailler, se chambrer, mais qui s'aiment bien. Et donc, ça donne un côté intéressant.
Clément a une compagne.
Oui.
Et donc, cette compagne a son... Oui, elle a sa place dans ce livre.
Oui.
Parce qu'elle va aider, finalement, une collègue de Clément à y voir plus clair dans sa situation, dans sa propre situation.
Alors là, c'est aussi un petit clin d'œil que je fais à ma vie personnelle.
Oui.
Parce que Clément Chevalier a une compagne qui s'appelle Nina Constantine et qui est assistante sociale.
Oui.
Voilà. Et mon épouse s'appelle Zina, elle est née à Constantine et elle est assistante sociale.
Ah, c'est trop fou! C'est vraiment les idées qui bouillonnent chez un auteur.
Oui, puis c'est un petit clin d'œil à mon épouse.
Mm-hmm. Et comment vous faites pour Nina, on a bien compris comment vous avez fait, mais pour trouver les noms, comment ça se passe chez un auteur?
Dans certains romans, je m'amuse à prendre des noms locaux. J'ai des personnages qui s'appellent Eskeich, Bonshomme, etc. Donc des noms vraiment ariégeois. Ou sinon, c'est un peu au pif, quoi.
D'accord. D'accord. Et vous faites un schéma avant d'écrire votre livre pour savoir qui est où et qui va faire quoi?
Alors, pas sur les personnages vraiment, mais sur la chronologie de l'histoire. Alors, ce que j'essaie de faire, je prends un papier et puis je mets chapitre 1, il se passe ceci, chapitre 2, il se passe cela, chapitre 3, il se passe cela, jusque plus ou moins à la fin, encore que de temps en temps, je parte en autre direction. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'écriture de chaque chapitre, j'essaie de faire en sorte que ça colle avec ce que je voudrais dans le chapitre précédent, avec notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois les questions comment dans la réalité les policiers arriveraient à passer, si je puis dire, d'un chapitre à l'autre chapitre.
Et oui. Ça, c'est peut-être le plus difficile à ajuster ou pas?
Oui. Je crois qu'il y a deux difficultés dans l'écriture d'un roman. C'est déjà de définir l'intrigue. Et ensuite, surtout si l'on veut rester crédible et faire ce qu'on appelle du roman policier procédural, c'est-à-dire proche de la réalité, arriver à faire coller l'intrigue qu'on a inventée avec l'enquête elle-même.
Mmh. Je reviens quand même au monde de la rue parce que j'avoue que c'est un point qui m'a fascinée à la lecture parce que je trouve que vous avez mis ce monde-là en valeur, vous leur avez rendu peut-être une justice aussi, et peut-être entraîné le lecteur à voir les choses autrement.
Oui, tout à fait. J'essaie de faire passer modestement un petit message en disant « Bon, les SDF, ce ne sont pas des parias, ce sont des pauvres gens. La plupart sont tombés dans la misère et la rue, pas par volonté, mais parce que c'est leur destin et que ce sont des gens qu'il faut aider. » C'est pour ça que je reviens un petit peu à la chanson de Maxime Le Forestier, « Être né quelque part ». Bon, ce n'est pas forcément aussi être né ailleurs, géographiquement parlant, mais c'est être aussi né et avoir vécu ou devenir autrement au niveau social. Et un être humain est un être humain, qu'il soit pauvre, riche, qu'il soit né en Algérie, aux États-Unis, en France ou ailleurs.
Mmh. En tout cas, bravo, parce que j'ai dit que ça, c'est un bel hommage qu'on peut leur rendre, en fait.
Oui, tout à fait, oui.
Deuxième mort, encore la rue, toujours ce fameux dessin. Clément, là, il est pris de doute quand même, parce que là, il se dit, là, c'est la loge qui déconne, quoi.
Ben oui, là, il se dit, est-ce que c'est un franc-maçon qui est devenu fou? Est-ce qu'on a affaire à un tueur en série qui va poursuivre ses méfaits? En plus, il se fait chambrer un petit peu par ses collègues qui savent qu'il est franc-maçon. Et donc, ça le met un petit peu mal à l'aise. Mais il continue l'enquête et puis on verra par la suite ce qu'il en est.
Oui, en effet, oui. Et le lieutenant Julie Bastogne, sans trop dire tout sur elle, qui est-elle?
Elle, c'est la petite nouvelle au groupe. C'est une jeune policière qui est affectée au groupe. bon, qui va faire équipe souvent avec le brigadier dont on parlait tout à l'heure. Et bon, elle est un peu timide, elle va avoir des problèmes familiaux, elle va se confier à son chef. En fait, tout ça, c'est un petit peu comme ça se passe dans la réalité au sein d'un groupe de la brigade criminelle où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Je donne un exemple d'entraide. Moi, pendant toutes les années où j'ai été à la brigade criminelle, que ce soit en tant que chef de groupe ou en tant que membre du groupe avant d'accéder à cette fonction, on avait une vie très, très familiale dans le groupe. Quand quelqu'un déménageait, par exemple, il ne faisait pas appel à une société de déménagement. On venait tous avec une camionnette et on l'aidait. Voilà. Il y avait vraiment une entraide, on faisait des repas entre nous.
Oui.
Et c'est important de créer ce lien parce qu'il y a parfois des enquêtes qui amènent à travailler ensemble pendant des jours et des jours. En rentrant simplement chez soi à minuit pour repartir à 16h du matin, souvent en plaisantant, on disait « Tiens, cette semaine, on a passé plus de temps entre nous qu'avec nos familles. » Donc, il faut que les gens s'entendent bien.
Oui. Et puis, c'est le côté humain aussi qui est mis en valeur, comme ça.
Tout à fait, oui.
Ça, c'est très important, par contre. Ce qui rend compliqué l'enquête, c'est que nous y retrouvons un chirurgien qui entretient des relations au gouvernement. Et parallèlement, le monde de la rue, on a envie de savoir ce qui se passe. Et donc ça, c'est l'auteur avec une force inouïe. Parce que je ne sais pas si les deux mondes ne se côtoieraient jamais.
Alors effectivement, les mondes ne se côtoieraient jamais. Mais là, les mobiles du crime vont faire que oui. Et puis vont se mêler également. Alors, il y a le monde de la rue, il y a ce chirurgien très, très haut bourgeois que vous venez de citer. Il y a aussi des membres du milieu qui vont apparaître.
Oui.
Tout ce petit monde gravite, on fait finalement dans la même direction et la police ne le saura qu'à la fin.
Qu'à la fin, et ça, on ne va pas en parler, justement. Mais ça aussi, quand vous avez créé ce chirurgien, c'est parce qu'il le fallait, parce que vous auriez pu prendre... un artisan, un PDG d'usine.
Oui, alors non, là, je dirais que c'est le hasard. Je l'ai créé en tant que chirurgien. Ça aurait pu être effectivement un PDG ou un chanteur à la mode ou qui que ce soit. Voilà. Mais il fallait que ça soit quelqu'un qui ne soit pas du monde SDF et qui soit plutôt dans une situation sociale un peu élevée.
Oui.
Pour l'intrigue.
Et qui avait des relations avec le gouvernement.
Oui, alors ça, c'est le petit clin d'œil aussi.
Et oui, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire ce chirurgien là-dedans ?
Oui, oui, non, mais ça, c'est aussi un petit peu une manie d'auteur, quoi, de créer des presque fausses pistes dans l'esprit du lecteur.
Ah, mais tout à fait.
Mais c'est ce qui fait en plus le fait que le lecteur a envie de poursuivre la lecture.
Ah, mais tout à fait. Là, moi, j'ai été pris au piège depuis la première phrase. Hein. Et puis, il fallait que je sache. En tout cas, vous l'avez bien réussi. Deux morts plus tard, encore, reliés tous par un fil conducteur et n'ont rien à voir avec les francs-maçons, on va le découvrir petit à petit, ou alors je me suis peut-être trompée, je ne sais pas. Vous compliquez quand même la tâche des policiers, là.
Oui, c'est vrai que là, à ce malheureux Clément Chevalier, je donne une enquête qui n'est pas facile.
Parce que moi, je m'y suis perdu. À un moment, j'ai dit « Oula !»
Oui, c'est vrai que c'est une enquête qui, dans la réalité, aurait été assez compliquée. Mais qui aurait pu se produire. Bon, là, c'est vrai que l'intrigue est un peu tarabiscotée, mais finalement, pas tant que ça. Moi, j'ai travaillé sur des affaires aussi très, très bizarres, avec des fausses pistes que l'on traitait au fur et à mesure, qui s'évanouissaient au fur et à mesure, et puis tout ça pour revenir à un moment donné sur la piste principale. Dans la réalité, bon, c'est vrai que 90% des meurtres sont des meurtres, je dirais, assez simples, entre guillemets. On voit tout de suite qui a voulu tuer et pourquoi, même si on ne l'identifie pas.
Oui.
Mais il y a aussi parfois des meurtres très bizarres, très compliqués, qui pourraient donner lieu à des films ou à des romans.
Oui. Parce que là, j'avoue que quand on a retrouvé ces deux morts dans cette voiture, j'ai dit, mais où est-ce qu'ils nous amènent, quoi ? Mais bon, vous nous avez bien amenés quelque part, en tout cas. On va faire une petite pause musicale. Vous nous avez choisi les Beatles. Pourquoi ?
Alors, j'ai choisi les Beatles parce que je suis un grand amateur des Beatles depuis toujours. Je pense que même à l'heure actuelle, c'est toujours le plus grand groupe de rock du monde et que leur album Sgt. Pepper est une pépite. Et donc là, j'ai choisi Penny Lane, qui n'est pas dans Sgt. Pepper, mais qui date de la même année, en 67, et dont je pense que c'est un de leurs meilleurs morceaux.
Eh bien, on l'écoute.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go. arrives another customer. We see the banker sitting waiting for a train.
Merci Jean-Paul pour ce moment musical avec les Beatles. Nous sommes en compagnie donc de vous, Jean-Paul Copetti. Votre livre « Prince de Belleville » paru en automne 2021 aux éditions Champs-Élysées Deauville. Toujours des morts dans votre livre. C'est une enquête policière que vous nous faites lire et que vous nous amenez aussi à élucider avec Clément. Est-ce que Clément, justement, pense de plus en plus à la loge ou pas, après les deux morts?
Disons qu'il s'interroge, mais il ne peut pas imaginer que des francs-maçons délibérément, ou un franc-maçon délibérément, se mette à devenir un tueur en série, à moins que celui-ci ait perdu la raison. Mais donc là, oui, ça dépasserait le cas de la franc-maçonnerie. Je pense que les doutes vont se dégager rapidement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il est très troublé par les signes que l'on retrouve sur les cadavres.
Et oui, en effet. Ce chirurgien que vous avez créé, il s'est imposé à vous ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh ben voilà quoi, je l'ai créé chirurgien comme j'aurais pu le créer autre chose. Et en plus, un chirurgien de renommée.
Tout à fait.
C'est pas n'importe qui.
Cela dit, alors sans dévoiler bien sûr l'intrigue et la fin de l'histoire, oui, c'est justement parce qu'il est chirurgien qu'à un moment donné, le milieu est en contact avec lui. Donc il fallait effectivement un métier quelque part de ce type.
Et oui, parce que je me suis dit, mais pourquoi ce chirurgien? Parce que franchement, quand même, et à un moment, j'ai eu l'impression qu'il tombait comme un cheveu sur la soupe.
Et non, en fait, il ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, il est un des ingrédients de cette soupe.
Oui, en effet, tout à fait, tout à fait. Clément gère aussi son équipe, hein, un bon père de famille. Vous l'avez choisi pour qu'il fasse justement ce rôle aussi au sein de son équipe, et pourquoi?
Et pour coller à la réalité, parce que c'est vrai qu'un chef de groupe à la CRIM, c'est un petit peu le, alors peut-être pas le papa, mais
oui,
c'est bon, en général c'est celui qui a le plus, c'est toujours celui qui a le plus d'expérience, le plus gradé, souvent le plus âgé, et donc il gère une équipe. On peut employer le terme en bon père de famille.
Oui, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu quoi. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit ouais, c'est un bon père de famille. Comme rien n'est relié, il faut creuser sans cesse et finalement, c'est la mort du chirurgien qui va changer toute la donne. Est-ce que c'est calculé avant l'écriture ou bien vous avez fait peut-être une grille pour les paliers ou un escalier?
Oui, là, lorsque j'en étais arrivé à préparer le chapitre avec la mort du chirurgien, j'avais prévu ce qui va se passer, que je n'ai pas dévoilé,
oui,
et qui va permettre aux policiers de découvrir un élément fondamental dans l'identification de plusieurs personnes.
Mm-hmm. Il y a ce traquenard que va poser Clément, que va faire Clément, ouais, dans le restaurant. Ça existe aussi dans le vrai, comme ça se passe là?
Ah oui, tout à fait. Cet épisode, d'ailleurs, qui se termine pas trop bien.
Oui.
Oui, c'est tout à fait le genre d'opération qui aurait pu être menée dans le cadre d'une enquête à la brigade criminelle. Oui, tout à fait. Oui.
Et il y a toujours une personne qui craque avant les autres?
Oh, ça arrive très souvent, oui.
D'accord.
Surtout dans les affaires avec multiplicité d'auteurs, on peut toujours trouver un maillon faible qui n'a pas envie de payer pour les autres et qui, pour s'attirer la clémence de la justice, va donner des renseignements sur ses complices.
Mmh. C'est vrai que c'est vraiment complexe comme histoire. Hein, on ne va pas tout dire, on ne peut pas tout dire, ce n'est pas possible. Heureusement que c'est du monde de la rue, finalement, que vient la clé.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, le monde de la rue, au début, eh ben, on y était en plein. Et c'est lui qui va avoir le mot final.
Voilà, c'est ça. C'est grâce finalement à un SDF qui apparaît en tout début de livre, qui verra réapparaître par la suite, que le fameux coup de chance dont je parlais précédemment va se présenter avec son témoignage.
Oui. Et heureusement d'ailleurs.
Ah oui.
Après, il y a aussi cette petite anecdote au début du livre qui ce blouson. En oui. fait, il y a eu autant de morts à cause d'un blouson, finalement.
Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
Et ça aussi, c'est une idée qui vous est venue ou c'est peut-être vrai dans la réalité ?
Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai inventé, mais ça aurait tout à fait pu être possible.
Oui, forcément. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre ?
On peut le trouver en le commandant dans n'importe quelle librairie, parce que je suis édité par une petite maison, donc on ne trouve pas le livre directement partout, oui. sauf à Saint-Giron, dans les deux librairies de Saint-Giron. Mais sinon, n'importe quel libraire peut le commander et puis vous allez le recevoir. Vous pouvez également le commander sur toutes les plateformes. Bon, moi, je préfère que les gens l'achètent auprès de petits commerçants.
Tout à fait.
Mais on peut le trouver également sur les plateformes,
oui.
etc.
Ceux qui ont eu la chance de lire déjà ce livre, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Beaucoup de gens m'ont dit que c'était un des meilleurs. Alors, c'est le cinquième que j'ai écrit. Beaucoup de
D'accord.
gens m'ont dit que c'était le meilleur. Et moi aussi, je l'aime bien parce que... Bon, non pas parce que c'est le dernier, mais je trouve que, bon, il est vraiment pas mal. Le précédent de la trilogie aussi, Ténèbres à l'auge bleue, est pas mal aussi. Et le prochain qui devrait sortir en avril ou mai... et qui s'appellera « La confrérie des 12 vigilants », est aussi un livre que j'aime beaucoup et pour lequel je me suis bien amusé aussi pour l'écrire, parce qu'il y a aussi cette notion de plaisir à écrire un livre qu'on retrouve plus ou moins suivant les romans.
D'accord. Vous parlez avec vos personnages ou ce sont eux qui vous parlent en vous disant hey, « j'en ai marre de mourir » ou « je ne sais pas » ou « fais-moi un accident, mais fais-moi
revivre » Non, ça serait plutôt moi qui leur parle, je dirais. Oui.
Ah d'accord.
Oui.
Ils vous font peur des fois, non ?
Non. Il m'intrigue un peu. Souvent, je me dis, tiens, ce personnage avec le caractère que je lui ai donné, je vais le mettre dans telle situation. Comment je vais le faire réagir ? Voilà, mais sinon,
D'accord.
non, pas particulièrement.
Ah, quand même ?
Oui.
Bien. On ne va pas évidemment dévoiler la fin. Hein, la fin, il faut la découvrir.
Absolument.
On va le laisser découvrir aux auditeurs. Et d'ailleurs, je leur recommande cette lecture parce que ce n'est pas... vraiment très dur à lire. C'est pas des morts tragiques.
Non, il y a rien de gore là-dedans. C'est vraiment
tout à fait. Mais c'est aussi une aventure qu'on peut tenter et qu'on découvre avec vous. Et on dit ah bon, on en est sûr, c'est celui-là. Et puis non. Ça c'est un point fort, je trouve, de votre part. Et donc ce prince de Belleville, il trouve un autre personnage, et c'est finalement lui, le personnage clé, c'est l'oncle.
Oui, le vieil oncle qui va apparaître à un moment donné,
oui.
le vieil oncle provincial, et qui va là, lui aussi donner une partie de la clé de l'énigme aux policiers. Et là, on va comprendre finalement ce qui s'est passé au début.
Tout à fait. Comment on peut tomber comme ça dans la rue ?
Alors là, il y a énormément de
réponses.
De réponses. moi, j'ai connu, parce que mon épouse, comme je vous l'ai dit, est assistante sociale. Et à un moment donné, elle travaillait justement avec les gens de la rue. Et elle m'a présenté des gens qui avaient eu des fonctions, des ingénieurs, des architectes, qui se retrouvaient à la rue, mais vraiment à la rue, à dormir sous les ponts, etc. Alors il y a plusieurs raisons. Il y en a un parce qu'il a eu un accident de voiture avec sa femme et ses enfants. Il les a tués involontairement, bien sûr. Il était le seul survivant, donc... voilà, il s'est mis à boire, il a perdu son travail. D'autres, c'est parce qu'ils perdent tout simplement leur travail. D'autres, parce qu'ils divorcent et que ça se passe mal. Il y a tout un tas de raisons qui font que tout le monde, finalement, peut se retrouver un jour dans la rue. Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire, moi, ça ne m'arrivera jamais.
Mm-hmm.
C'est un peu comme une fois, j'avais fait une conférence devant des lycéens qui me disaient, c'est quoi une tête de tueur, c'est quoi un tueur ? Mais je leur ai dit, mais tous ici, on est des assassins en puissance, on n'en sait rien.
Tout à fait.
On peut tous sombrer un jour sous l'effet de la colère, sous l'effet de la drogue, ou je ne sais quoi, on est tous des assassins en puissance. C'est un peu la même chose avec ce qu'on appelait les clochards dans le temps. N'importe qui peut sombrer dans la déchéance.
Mm-hmm. En tout cas, c'est un très beau livre que je recommande aux auditeurs. On ne va pas dévoiler l'épilogue parce que l'épilogue... Alors, cette fin que vous avez imaginée justement en parlant à cette petite araignée,
oui.
Ça vous est venu comme ça
j'ai trouvé que c'était une fin amusante et poétique.
Oh,
donc,
trop rigolote.
Je l'ai mise à la dernière page.
Ah oui, tout à fait. Trop rigolote. J'ai vraiment aimé. On a parlé du Prince de Belleville. C'est paru en automne 2021 aux éditions Champs-Élysées Deauville. On va le laisser donc découvrir à nos auditeurs. Merci Jean-Paul de nous avoir concocté un si bel ouvrage et d'avoir ouvert un petit peu ce monde des policiers que finalement on ne connaît pas.
Merci à vous.
Parce que c'est vous, vous étiez à l'intérieur, mais nous, nous sommes à l'extérieur. Et donc, même si c'est une fiction que vous avez écrite, vous nous dévoilez quand même un petit peu l'intérieur de la police. Et ça, c'est génial. C'est difficile de trouver la fin, sans parler de l'araignée, bien sûr, parce qu'à un moment, il faut arrêter l'histoire.
Oui, bah, un roman, c'est finalement un peu comme une enquête. À un moment donné, bah, il faut que ça s'arrête. Alors, les enquêtes s'arrêtent avec pas forcément toujours la résolution de l'énigme.
Mm-hmm.
Par chance, dans les romans, eh bien, l'énigme est résolue à la dernière page.
Oh, oui. Et dont le prochain va repartir avec le même policier.
Voilà, donc ce policier apparaît dans un premier roman qui s'appelle « Ténèbres à l'ange bleu ». On le retrouve dans « Prince de Belleville ». Et on va le retrouver l'année prochaine dans une histoire qui s'intitulera « La confrérie des 12 vigilants ». Où cette fois-ci, il va y avoir la découverte d'un cadavre et la résurgence d'une confrérie datant de l'époque de l'affaire Dreyfus d'extrême droite qu'on croyait disparue et qui semble réapparaître, avec en même temps le plasticage de la tombe d'Alain Kardec au cimetière du Père Lachaise. Est-ce que ça a un rapport? Et en même temps, un groupe d'hommes mystérieux qui négociaient avec la mafia serbe parisienne, on ne sait quoi. Alors là encore, tout ceci a l'air disparate, mais va finalement se retrouver dans la même intrigue.
Et toujours pure fiction.
Toujours pure fiction.
Chapeau, bravo. Je vous laisse le mot de la fin. Vous avez d'abord choisi une musique pour clore ce page après page. Qu'est-ce qu'elle rappelle pour vous?
Alors, Johnny Cash, c'est un chanteur que j'ai connu il y a très 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 longtemps et que j'aime énormément. J'ai même été membre, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, pendant assez longtemps, du fan club européen de Johnny Cash, que j'ai vu à 4 reprises sur une vingtaine d'années en concert à Paris. Et j'allais même distribuer des flyers le concernant à la sortie auprès des spectateurs. Donc j'ai choisi une de ses chansons les plus célèbres, Folsom Prison Blues.
D'accord. Et vous reviendrez bien sûr nous présenter votre trilogie, la fin de votre trilogie, peut-être dans page après page. En tout cas, je l'espère.
Avec plaisir.
À bientôt. Merci,
merci.
Beaucoup.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
C'était Page après Page, une rencontre intimiste avec un auteur.